Bonne journée, Tiphaine. À bientôt.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Toutes et bonjour à tous. À quelques rares exceptions près, comme Colette ou George Sand, les femmes écrivaines et aussi artistes ont été plus facilement considérées comme produisant de jolies choses que réellement prises au sérieux. Quand elles étaient mariées avec des artistes ou des écrivains, c'est bien souvent eux qui ont pris le dessus de la reconnaissance publique, les reléguant au rang de muses dans une domination symbolique bien souvent intériorisée. Une équipe de chercheuses et de chercheurs a décidé de travailler sur ces exemples de femmes cachées par des hommes célèbres qui étaient leurs proches et qui ont rendu leur reconnaissance plus difficile. Ce travail a donné lieu à la publication d'un livre chez Classique Garnier intitulé « Femmes artistes et écrivaines dans l'ombre des grands hommes ». Et c'est à partir de ce livre que nous avons construit cette semaine de la Compagnie des œuvres. Lundi, à tout seigneur, tout honneur, c'est avec l'initiatrice de cette recherche que nous avons débuté, Hélène Morel-Indard. Elle nous a parlé de Catherine Pozzi, la maîtresse de Paul Valéry. Hier, nous sommes revenus sur la relation Flaubert-Louise Collet, bien au désavantage de cette dernière. Et enfin demain, nous nous intéresserons au couple que formait Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, avec son mari Percy Shelley, qui a joué pour elle un rôle de Pygmalion. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parler de la plasticienne Suzanne Duchamp, sœur de Marcel Duchamp et de Jacques Villon, mais également épouse du peintre Jean Crotty, nous sommes en compagnie d'Anne Tomich, professeure de littérature comparée à la Sorbonne, autrice de l'ouvrage « La naissance des avant-gardes occidentales 1909-1922 » chez Armand Collin en 2015. Et elle a commis l'article consacré donc à Suzanne Duchamp dans l'ouvrage collectif que j'évoquais précédemment. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres.
Jacques Villon s'appelait Gaston Duchamp.
Suzanne Crotty.
Il avait horreur de ce prénom, le Gaston. Et il s'est appelé Gaston Duchamp jusqu'au moment où il est venu à Paris pour suivre sa carrière, parce que, à ce moment-là, mon père lui a demandé de prendre un pseudonyme, car mon père était notaire. Et il avait toujours espéré que son fils aîné prendrait sa suite, et ça a été une grande déception pour lui. Mais enfin, il s'appelait Gaston Duchamp. Et son frère, qui le suivait de très près, mon second frère, s'appelait Raymond Duchamp. Eh bien, lui, alors, devait être, non pas notaire, mais médecin. Et il a fait sa médecine presque jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, il a décrété à mon père qu'il serait, non pas médecin, mais sculpteur. Alors, mon père a eu une seconde désillusion. Si bien que lorsque mon troisième frère, Marcel, a été en âge de choisir une, après son bachot, de choisir une voie, mon père lui a demandé ce qu'il voulait faire, il a dit artiste, et mon père n'a pas insisté pour qu'il fasse autre chose.
C'était une couvée complète d'artiste.
Mon père n'avait pas de chance. Et je pourrais même ajouter quelque chose, c'est que moi j'étais très jeune à ce moment-là, et un jour mon père est venu, et il m'a dit, écoute, vraiment c'est un peu ridicule, vraiment tu es très jeune, c'est ridicule ce que je vais te dire, mais je voudrais que tu me dises, est-ce que tu crois que plus tard tu voudrais épouser un notaire? Alors je lui ai dit, écoute, non père, vraiment, je t'assure, débarrasse-toi de ton étude, moi, ne t'inquiète pas de moi.
On vient d'entendre la voix assez rare dans les archives de Suzanne Duchamp. Bonjour Anne Tomich.
Bonjour.
Alors, Suzanne Duchamp a été très peu interrogée par des journalistes de la radio française. Rien qu'en disant ça, on est déjà un petit peu au cœur du sujet, non ?
Absolument. D'ailleurs, honnêtement, vous me faites découvrir la voix de Suzanne Duchamp et cet entretien. Je ne l'ai jamais entendu. Je ne sais même pas de quand il date exactement.
Je ne peux pas vous dire exactement non plus.
Mais ce n'est pas grave. Mais oui, on est effectivement là au cœur du problème. Suzanne Duchamp, elle a eu une carrière et une reconnaissance d'artiste À l'époque, alors je ne vais pas faire de, il n'y a pas de poids et de mesure et de comparaison, mais en tout cas, elle a été reconnue comme artiste, comme l'ont été Raymond Duchamp-Villon, comme l'a été Jacques Villon. Elle a été une actrice importante de la mouvance proto-dada avant l'arrivée de Picabia et de Tsara à Paris. Et puis, voilà, elle n'a pas été interrogée par les journalistes. Son nom n'est pas resté dans l'histoire de l'art et des avant-gardes.
Enfin, elle a été interrogée par les journalistes, on va l'entendre un petit peu dans cette émission, mais c'est toujours, ou presque, pour parler oui. justement de ses frères ou de son mari.
C'est toujours pour parler de ses frères, donc les Duchamp, ou de son mari. C'est toujours pour parler de son mari, donc Jean Croty, le peintre suisse qu'elle épouse en 1919.
Un peu oublié lui aussi. Hein.
Lui aussi un petit peu oublié, même si à l'époque, donc dans les années 20, quand Suzanne Duchamp expose avec Jean Croty, et elle fait plusieurs expositions avec Jean Croty, des expositions personnelles très significativement aussi, par exemple dans le catalogue de la grande exposition qu'ils font en 1921, tous les deux à la Galerie Montaigne à Paris, bien dans le catalogue, André Salmon consacre 4 pages, la présentation des deux, hein, il consacre 4 pages à Jean Croty, 4 lignes à Suzanne Duchamp.
On va revenir là-dessus parce que c'est vraiment le cœur de l'invisibilisation de Suzanne Duchamp. Au passage, comme ça, si on veut voir des tableaux de Suzanne Duchamp, dans quel musée va-t-on ?
Si on veut voir des tableaux de Suzanne Duchamp, on va à la bibliothèque Kandinsky au centre Beaubourg, mais c'est pas, ils sont pas accrochés dans un musée. On les voit dans les rétrospectives, quand rétrospectives il y a.
Est-ce qu'il y a des rétrospectives de...
Il y a eu.
Alors c'est pas forcément seulement Suzanne Duchamp, ça va être dans un cadre plus large du mouvement Dada, par exemple.
Alors dans un mouvement plus large du mouvement Dada, quand il y avait eu l'exposition à Beaubourg sur les femmes dans l'art. Il y avait eu plusieurs œuvres de Suzanne Duchamp qui avaient été exposées à cette occasion-là.
Bon, en tous les cas, c'est difficile.
C'est difficile de la voir.
Des œuvres de Suzanne Duchamp, elle est aujourd'hui à peu près inconnue. Hein. Il faut quand même bien présenter les choses comme ça. Alors, on peut quand même dire que sur la plaque de la maison des Duchamp, qui se trouve au 73 rue Jeanne d'Arc à Rouen, elle figure bien aux côtés de ses frères artistes. C'est une plaque qui a été apposée en 1967. Ici a vécu, entre 1905 et 1925, une famille d'artistes normands. Jacques Villon, 1875-1963. Raymond Duchamp-Villon, 1876-1918. Marcel Duchamp, 1887. Et puis il n'y a pas de date de mort parce qu'à cette époque-là, Marcel Duchamp est encore vivant. Et Suzanne Duchamp, 1889-1963. Donc c'est bien que finalement, Marcel Duchamp, qui est le dernier de la fratrie, fait attention à ce que le nom de sa sœur figure sur cette plaque quand même.
Absolument. Et alors, peu avant sa mort, Marcel Duchamp donne une série d'entretiens à Pierre Cabanne.
On est en 1967. Un grand historien d'art, spécialiste notamment de Picasso.
Absolument. On est en 67, si je ne me trompe à ce moment-là. Et Cabanne interroge Duchamp sur sa relation à Suzanne. Et Marcel Duchamp explique à quel point Suzanne Duchamp a été importante pour lui, pas seulement dans la relation de frère à sœur, mais dans son développement artistique. Elle a été très importante parce que, explique-t-il, c'est l'expression qu'il utilise, elle était dans le coup.
Oui. Dans le coup, c'est une reconnaissance quand même du frère pour la sœur, très
absolument. Ça, c'est une première reconnaissance. Il y a une autre reconnaissance dont on parlera peut-être tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais c'est l'histoire du fameux, la fameuse histoire du porte-bouteille.
On en parlera en effet.
On en parlera. Oui. Mais donc que Marcel Duchamp ait reconnu sa sœur, qu'il ait souhaité inclure sa sœur dans le travail de collaboration artistique avec lui, que à la fin de sa vie, il ait voulu marquer son nom sur la plaque, attester sa reconnaissance dans ses entretiens avec Cabanne, ça, je pense que c'est incontestable. Malgré ça,
Elle reste inconnue. On va essayer de voir et invisibiliser, on va essayer de voir pourquoi tout au long de cette émission. Mais d'abord, j'aimerais qu'on raconte un petit peu la grande complicité qu'il y avait quand même entre le frère et la sœur dans une fratrie de 6, mais ils ont des âges qui finalement les rapprochent.
Oui, c'est ça, ils ont 2 ans de différence, hein, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, le frère aîné Gaston, devenu Jacques Villon, est né en 1875, le second en 1976, voilà, et puis après donc... On a la paire, si je peux dire, Marcel, Suzanne, 87 et 89. Et pendant toute leur enfance, ils sont effectivement très proches dans leur jeu, très proches, très complices. Et quand Suzanne commence à travailler, à se lancer dans la dans l'art, très jeune. À 16 ans, elle entre à l'école des Beaux-Arts de Rouen. Faut peut-être rappeler aussi à cette occasion que le rôle important joué par le grand-père. Le
oui, grand-père qui était peintre aussi.
Qui était
donc
un
c'est
peintre,
une famille d'artistes quand même. Enfin, sauf le père notaire.
Sauf le père notaire.
Une forme d'art, j'imagine.
Alors là, j'en suis pas sûre, mais je vous laisse. Mais la mère était musicienne. Donc, du côté maternel, en tout cas, là, la lignée d'artistes continue, comment dire,
se poursuivait,
ouais. Mais c'est Émile Nicole, hein, qui était un peintre, un graveur local, qui a largement contribué à la formation des quatre Duchamp et qui a payé en fait leurs études. Parce qu'il était, je sais pas, courtier maritime, je crois. Enfin, en tout cas, il avait suffisamment d'argent pour ça. Et donc, quand Suzanne commence, elle rentre à l'école des Beaux-Arts de Rouen et qu'elle est toute jeune et qu'elle a 16 ans et qu'elle fait sa première ensuite grande exposition à l'âge de 22 ans, elle est aidée par Marcel Duchamp. Elle est aidée par son frère.
Et par un environnement familial très
favorable. Et par tout cet environnement familial, oui.
Est-ce qu'entre vos frères et vous, il y avait une grande communauté de conception artistique ou non ? Et
non, pas énorme, parce que nous étions... Si, il y avait une communauté formidable, mais ça se cristallisait toujours en des points très différents. Même Duchamp-Villon était très différent de Villon, et moi j'étais aussi différent des deux autres. Et c'était voulu, si vous voulez, de ne pas se copier l'un l'autre, ou du moins ne pas s'influencer l'un l'autre. Parce qu'on savait que ça ne servait à rien d'être influencé, qu'il fallait trouver chacun sa petite voie à soi, et puis la trouver, ce qui n'était pas facile. Mais enfin, naturellement, la ligne générale était la même pour les trois, pour nous trois. C'était évident, n'est-ce pas, avec des facettes un peu différentes, pour chacun.
Avec le recul, qu'est-ce qui vous paraît avoir été le plus commun à tous trois ?
Je ne sais pas, mais d'abord la façon de réagir contre... qu'on appelait la peinture à cette époque-là, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a 50 ans ou 50 ans, ce n'est pas du tout la même façon de considérer la peinture comme aujourd'hui. C'est-à-dire que la question publique n'entrait même pas en ligne de compte. Pas du tout. Si on faisait de la peinture, si on voulait faire quelque chose, il fallait d'abord penser à ne jamais être regardé, pour ainsi dire, d'être exposé. Les petits scandales du salon d'automne et tout ça, c'était très gratuit de la part du public, qui s'amusait, si vous voulez, dans les journaux. Donc, il y avait cette attitude d'abord à accepter. On travaillait en moine, si vous voulez, sans aucun autre espoir que de survivre par d'autres moyens que la peinture.
Des œuvres que vous écoutez et cette archive de Marcel Duchamp du 13 juin 1963 enregistrée à Antomy juste à la mort de Jacques Villon, donc l'un des frères Duchamp. Il n'est pas question dans cette archive de Suzanne, mais on sent en effet l'importance de la famille et de ce qui circule entre les différents membres de cette fratrie.
Oui, il n'est pas question ici de Suzanne, il sera question ailleurs de Suzanne, enfin dans la bouche de Marcel. Mais ce qui est dit là de ces deux frères, c'est pas la très grande complicité, le très grand lien qui lie Marcel à ses deux frères. Tandis que quand il parle de Suzanne...
Il y a quelque chose de... plus affectif et aussi oui. Qui renvoie probablement à l'adolescence et à ces moments où elle a été modèle de son frère, par exemple.
Oui.
Il
a beaucoup peint sa sœur, c'est vrai. Et il y a d'ailleurs, toute une réception de l'œuvre de Marcel Duchamp, et indirectement de celle de Suzanne aussi, mais de l'œuvre de Marcel Duchamp, qui s'est construite à partir de l'idée d'une lecture plus ou moins, comment dire, psychologisante, psychanalytique des rapports entre Marcel et Suzanne, et qui a, cette lecture-là d'ailleurs, a particulièrement contribué à invisibiliser Suzanne, en tout cas à lui dénier le statut de d'artiste, parce que alors l'un des points forts de cette, enfin l'un des centres de cette lecture, c'est Arturo Schwartz qui a compilé le catalogue raisonné. C'est un Américain. Le catalogue raisonné des œuvres de Duchamp, de Marcel Duchamp, et qui, à partir des années 60 hein, déjà, a émis l'hypothèse, développée, redéveloppée, des rapports incestueux, enfin, plutôt des pulsions incestueuses de Marcel Duchamp à l'égard de sa sœur Suzanne, et qui lit en fait toute l'œuvre de Marcel Duchamp comme une sorte de sublimation de ses désirs incestueux à l'égard de Suzanne.
Donc ça fait partie des choses qui ont rendu Suzanne Duchamp, qui l'ont rejetée au-delà, oui, de la sphère finalement artistique pour la renvoyer finalement dans ses foyers, si j'ose, oui, dire, c'est-à-dire précisément dans le domaine de l'affectif, voire en l'occurrence, exactement, du sexuel. Mais Marcel Duchamp, lui, n'a pas tellement été contre cette lecture. C'est-à-dire, quand Schwartz fait cette hypothèse, il ne va pas s'ériger contre cette lecture-là, qui pourtant, de toute évidence, enfin, qui semble fausse en tous les cas.
Enfin, qui semble fausse, j'en sais rien, je ne suis pas psychanalyste, et je ne pense pas que ce soit la parole de psychanalyste qui ait émis cette hypothèse-là. Donc, enfin, fausse ou juste, j'en sais rien. Mais Marcel Duchamp ne s'érige pas contre cette lecture-là. Et du coup, c'est là toute l'ambivalence. Il reconnaît sa sœur en même temps que, dans la pratique, en ne s'érigeant pas contre cette lecture-là, il contribue aussi à ce mouvement de déni du statut d'artiste.
Il contribue, mais peut-être qu'il ne le fait pas exprès, parce qu'on dit qu'il ne lisait pas les textes qui étaient écrits sur lui et que finalement, bon, ça l'amusait peut-être, enfin qu'il trouvait ça presque surréaliste.
Mais je crois qu'il faut être très prudent quand on parle de il fait ceci, il fait cela, il le fait exprès, il le fait pas exprès, bien sûr, bien sûr.
C'est pas la question, c'est ça?
C'est exactement, c'est pas la question du tout. Et quand on dit, à juste titre, que toutes ces avant-gardes, y compris Marcel Duchamp, sont extrêmement misogynes, ont contribué à l'invisibilisation des femmes, c'est pas du tout parce qu'ils l'ont fait exprès, c'est pas du tout parce qu'ils étaient particulièrement plus méchants que d'autres, plus méchants ou plus dominateurs ou plus...
Ou moins conscients, comme on dirait aujourd'hui.
La société française, la société occidentale, les sociétés occidentales, particulièrement la française, étaient moins conscients. Enfin, rappelez-vous, on est dans les années 1920. Je rappelle qu'en France, les femmes, elles obtiennent le droit de vote en 1944. On est à une époque où, juridiquement, la femme doit encore demander le droit à son mari pour pouvoir exercer un métier, où elle n'a pas le droit d'avoir un chéquier. Enfin, donc, on est dans un contexte social général qui n'est pas très conscient, pour reprendre votre terme, hein, de l'égalité homme-femme.
Mais là, on peut se poser la question, et puis c'est vrai que vous travaillez justement sur cette question des avant-gardes, et puis sur la question du genre aussi dans les avant-gardes. On peut se poser la question de manière un peu plus large. Est-ce que ces avant-gardes-là, qui pouvaient faire la morale un petit peu à la société française bourgeoise, en leur disant que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait vivre, et en même temps, eux, ils sont très bourgeois, finalement, dans le rapport patriarcal qu'ils ont avec les femmes artistes.
Ah oui, c'est toute l'ambivalence des avant-gardes, et vous avez raison, les avant-gardes et Dada en premier chef ont voulu contester l'ordre bourgeois, la société bourgeoise. Ils ont voulu une révolution sociale qui mette à bas tout ce qui était hiérarchie et dans le fonctionnement même de leur mouvement. Mmh. La déconstruction de l'idée de hiérarchie était extrêmement présente, prégnante et importante. Dans les relations hommes-femmes, ils n'ont pas poussé très loin cette mise en question des rapports de domination.
Comment vous expliquez ça?
En même temps, parce que, avoir être conscient des rapports de domination était à ce moment-là pas vraiment c'était pas vraiment possible encore à ce moment-là. En même temps, je veux dire, il faut pas non plus complètement effacer ce qu'ils ont pu faire pour les femmes artistes, parce que alors c'était pas une lutte féministe, hein, mais dans leur mise en question des circuits traditionnels de l'art, des modes de production traditionnels de l'œuvre d'art, ils ont contribué à offrir aux femmes des canaux d'expression, des canaux de production, des canaux de diffusion qui jusque-là leur étaient complètement, qui jusque-là étaient complètement inexistants. Quand les productions dadaïstes sont des spectacles collectifs, c'est plus facile, ça a été plus facile pour les femmes de s'y faire une place. Quand les modes de diffusion sont les petites revues qui circulent à diffusion très réduite, mais qui sont largement, diffusées et publiées. Là encore, c'est un canal de diffusion pour les femmes. Quand ils prônent, ils revendiquent les collaborations artistiques, là encore.
Donc, mais peut-être que la logique n'est pas poussée tout à fait assez loin. Est-ce que sur cette période-là, alors vous, c'est les avant-gardes que vous connaissez le plus, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits dans la société intellectuelle, artistique, littéraire française, où finalement les femmes auraient davantage leur place, ou est-ce que finalement c'est partout pareil? Vous n'avez pas en tête, je ne sais pas, quelqu'un ou un mouvement qui aurait pris conscience davantage que ces avant-gardes-là?
En France?
En France d'abord, oui, plutôt en France.
En France, non. Je pense que chez les futuristes russes, la conscience de la place des femmes était beaucoup plus grande qu'elle ne l'était en France ou même en Italie. Après, je pense aussi que, par exemple, en Angleterre, il y a des... ce sont pas des mouvements d'avant-garde de la même façon que Dada, les futuristes ou les surréalistes.
Les suffragettes.
Alors les suffragettes, c'est un mouvement. Alors là, pour le coup, c'est un mouvement, mais essentiellement politique. Moi, je pensais plutôt, puisqu'on était en train de parler d'artistes, je pensais plutôt au groupe de Bloomsbury autour de
Virginia Woolf.
Voilà, exactement. Où là, la place des femmes, la place d'une Virginia Woolf était
centrale. Et puis c'était quand même son sujet justement que de remettre la femme à la place qui lui revient, c'est-à-dire la place égalitaire avec les hommes. Pour terminer sur la question des avant-gardes et du futurisme que vous avez évoqué à l'instant, Anne Tomich, en fait il y a quelque chose dans ces avant-gardes de très combatif. Il s'agit de faire tomber la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Finalement, c'est très viril, une avant-garde. Toutes les avant-gardes sont-elles viriles?
Le mot même d'avant-garde appartient au registre militaire. L'idée même d'avant-garde... Alors, il faut aussi là être prudent parce que aucun de ces mouvements que nous appelons avant-garde ne s'est revendiqué avant-garde. Donc c'est une dénomination a posteriori. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont des mouvements qui se sont autoproclamés tels, avec une rhétorique qui est de fait une rhétorique très belliciste. Alors vous parliez des futuristes, le bellicisme des futuristes est plus à démontrer.
Au cœur de leur esthétique.
C'est le cœur de leur esthétique, c'est le cœur de leurs revendications. Et, comme par hasard, il s'agit à la fois de glorifier la guerre, c'est le point numéro je sais plus combien du manifeste futuriste de 1909, nous glorifions la guerre et le mépris de la femme.
Mmh. Donc il y a une revendication chez les futuristes du mépris de la femme, c'est écrit noir sur blanc.
Dans le premier...
Chez les Italiens ou...
Chez les Italiens, ouais. Dans le manifeste de Marinetti qui paraît en 1909, dans le Figaro. Hein, donc c'est pas non plus complètement des
Marinetti
Italiens.
Marinetti n'était pas était aussi politiquement très marqué.
Oui, il va le devenir de plus en plus, hein, mais dans la mouvance du futurisme marinettien, la revendication du mépris de la femme est l'un des points du manifeste. Après, il met de l'eau dans son vin, il est capable aussi de dire tout et son contraire, donc il dira aussi que les suffragettes sont ses meilleures collaboratrices.
Il y avait ces réunions de Puteaux dont vous avez entendu parler sûrement.
Marcel Duchamp.
Où tout le monde, pour ainsi dire, venait de Paris le dimanche. C'était une sorte de club mais qui ne se nommait pas Club Cubiste du tout, parce que le mot cubisme était à peine prononcé, excepté dans les journaux où on cherchait à le discuter. Rien n'était accepté, le public en général nous connaissait à peine même, que simplement comme une sorte de petite folie de certains artistes qui existent encore aujourd'hui pour d'autres.
Je venais les voir de temps en temps et c'est dans le jardin sauvage de cette demeure qu'avaient lieu les réunions d'artistes du dimanche. Les artistes d'esprit avancé venaient là et discutaient.
Un homme comme Picabia, que j'ai beaucoup connu, a été très très près de moi. Et justement avec cet esprit tellement indépendant qu'il avait et qui nous permettait à tous les deux de ne pas nous laisser embrigadés sous des cocardes inutiles, il y avait entre Picabia et moi une résolution de ne pas nous soumettre.
Là, j'ai rencontré très régulièrement Glaise, Metzinger, Lafrenet, Léger et d'autres aussi, Picabia, Crotty, qui à ce moment-là n'était pas mon mari et l'est devenu ensuite, Apollinaire, André Mar, Paul Fort, le prince des poètes, etc. N'est-ce pas, il y avait des discussions très animées entre les artistes, parce qu'à ce moment-là, il se posait de grands problèmes, du cubisme, du futurisme, enfin tout ça. Et puis, alors, on jouait au ballon, à différents jeux.
À jouer à l'arc et à jouer aux cartes ou aux échecs.
On prenait une tasse de thé, enfin, c'était tout à fait sympathique, très, très gentil.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Marcel et Suzanne Duchamp qui racontent les dimanches à Puteaux dans un atelier de création radiophonique qui date du 3 octobre 1993. Alors Anne Tomich, parlons un petit peu de Suzanne Duchamp elle-même et de sa contribution d'abord à Dada. Quelle est sa place finalement dans ce groupe? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a eu un rôle majeur ou pas?
Alors, on ne peut sans doute pas dire qu'elle a été une meneuse. Il y a eu des meneurs de Dada qui sont Hugo Ball, Tsara, Marcel Duchamp, Picabia. Donc, tout ça, c'est des hommes. Elle n'est donc pas une meneuse, mais elle a eu une part tout à fait active et importante dans Dada et dans Dada à Paris avant qu'il ne soit vraiment. Qu'il ne se désigne, enfin, qu'il soit que Dada ne soit ne naisse à Paris avec l'arrivée de Picabia et de Tsara, Picabia en 1919 et Tsara en 1920.
Donc elle est dadaïste avant Dada alors, presque.
Ribemont de Seigne, tout ça. Enfin, on considère qu'à Paris, entre 1916 et 1919, il y a un esprit Dada. Mm-hmm. Quand Hunier parle de l'esprit Dada dans la peinture, c'est de ça dont il parle. Il parle de toute cette mouvance d'artistes qui, avant la naissance officielle de Dada, en 1919-1920, œuvre déjà dans un esprit qui est l'esprit Dada.
Donc là, elle est là, elle a toute sa place à ce moment-là.
Elle a toute sa place à ce moment-là, et on peut même dire qu'elle a une place particulièrement, comment dire, novatrice. C'est l'une des premières, enfin, je crois même que c'est la première à introduire à Paris, dans les pratiques dadaïste, ce qui relève du recours à l'imagerie mécanomorphe.
Alors, qu'est-ce que c'est
l'imagerie mécanomorphe? Mécanomorphe, machine, ça renvoie aux formes qui évoquent des machines que les dadaïstes introduisent dans leurs œuvres. Picabia, le premier, Picabia à New York en 1915. Il faut juste peut-être rappeler qu'on est dans un contexte qui est le contexte de développement industriel et technologique, développement des machines en tout genre, hein, depuis les automobiles, les trains, les avions, les téléphones. Et qu'on est à une époque qui est en train, enfin qui sera qualifiée un petit peu plus tard par Walter Benjamin d'ère de la reproductibilité technique. Ouais. Donc on est à l'ère où la machine sert à reproduire. Toutes les avant-gardes, elles ont été fascinées par la machine parce que la machine est synonyme de modernité. Donc les avant-gardes se veulent modernes à l'avant. Donc les futuristes ont été fascinés par le mouvement et la vitesse de la machine. Les dadaïstes, c'est pas tant le mouvement et la vitesse qui les fascine. Ce qui les fascine, c'est ce que la machine fait à la notion même d'œuvre d'art. C'est la machine en tant que objet manufacturé et reproduit, et la machine en tant que objet qui sert à reproduire.
Donc c'est la question de la photographie, par exemple.
Absolument, absolument. La question de la photographie est absolument centrale parce que ça met en question, ça subvertit complètement la notion d'original. Et c'est ça qui est central pour Dada, c'est de mettre en question l'originalité de l'œuvre, l'association entre œuvre artistique et singularité, unicité, originalité.
Et auteur, parce que là, on s'approche du ready-made,
bien sûr,
justement, de Duchamp.
Bien sûr, bien sûr. Et aussi auteur, en fait, mettre en question le statut de l'œuvre et mettre en question le statut de l'auteur, ça va de pair. Dans la tradition post-romantique, disons, l'auteur-créateur, c'est le génie singulier qui produit l'œuvre unique et singulière. Et donc, toutes les pratiques et toute la pensée d'Ada va dans le sens de mettre en question ça. Donc, pour revenir à votre question sur les images mécanomorphes, donc, recopier des dessins industriels de machines et en faire des œuvres d'art, ce que font Picabia et les dadaïstes, c'est faire de l'œuvre, de ce qui est présenté et affiché comme une œuvre, c'est en faire la reproduction mécanique par le dessin de quelque chose qui est déjà de l'ordre du dessin industriel, et donc où l'idée même d'originalité, voire même d'origine, quand c'est copié des magazines scientifiques par exemple, devient complètement non pertinente.
Et là, Suzanne Duchamp.
Alors là, Suzanne Duchamp, donc elle est la première à introduire cette pratique des dessins mécanomorphes à Paris, d'une part. Elle est, son expérimentation novatrice va même plus loin parce qu'en fait, elle est la première combiner le dessin avec du collage d'objets dans les productions mécanomorphes. L'une des grandes expositions d'Ada qui a lieu en 1920, au moment de la réouverture du salon des indépendants, est l'occasion pour Suzanne Duchamp d'exposer un tableau qui s'appelle « Un et une menacée », qui est un tableau mécanomorphe hein, qui en représente. Alors, il y a des formes, une forme de grue, il y a un pendule, un objet pendule, et puis un mécanisme de montre qui sont collés. Mmh. Donc, elle pratique, avant les autres dadaïstes, le collage. Et l'association donc de non seulement dessins mécanomorphes, mais aussi d'objets collés.
Donc on va vers un art qui est de plus en plus conceptuel, de plus en plus intellectuel peut-être aussi. Est-ce qu'on peut dire que Suzanne Duchamp est, comme dans un autre genre, Virginia Woolf par exemple, une intellectuelle qui réfléchit, alors notamment sur la place de la femme par exemple dans l'art?
Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense que, parce que Suzanne Duchamp ne laisse pas d'écrits, elle n'est pas une théoricienne de l'art, Marcel Duchamp. Là, c'est des écrits. Et Marcel Duchamp a écrit sur l'art. Ce n'est pas le cas de Suzanne, c'est une praticienne. C'est une praticienne qui, dans sa pratique, alors consciemment, inconsciemment, j'en sais rien, et en fait, au fond, la question, elle n'est peut-être même pas tellement là, mais c'est une praticienne qui, dans sa pratique, est parfois en avance, comme c'est le cas avec ses collages dans les œuvres mécanomorphes, et parfois plus radicale. C'est le cas aussi, plus radical que ses confrères masculins, c'est le cas aussi dans les dessins mécanomorphes, si on s'intéresse à, comment dire, à leur dimension genrée, justement.
C'est très masculin, justement, la machine, non? Enfin, dans les représentations qu'on s'en fait.
Bah, dans les représentations, surtout dans les représentations qu'en ont fait les dadaïstes, c'est non seulement très masculin, mais c'est aussi l'occasion d'activer toute une série de stéréotypes très misogynes sur la femme. Quand Picabia dessine, reproduit une bougie de moteur, il l'intitule « Jeune fille américaine en état de nudité », ou quand il dessine une ampoule électrique et puis qu'il l'appelle américaine, bon, les connotations de la jeune fille comme allumeuse sont quand même assez assez flagrantes. Donc dans ce, ou bien alors quand je crois que c'est l'un de ses premiers dessins mécanomorphes, quand il intitule un assemblage de roues, d'engrenages de roues, quand il l'intitule « Fille née sans mère », bon, il active tout l'imaginaire de la reproduction qui évacue la femme et le féminin.
Bon, mais Suzanne Duchamp, rassurez-nous, elle ne fait pas ce genre d'œuvre mécanomorphe.
Ces œuvres mécanomorphes sont en tout cas beaucoup plus ambivalentes, beaucoup plus indécidables sur... qui est qui, par exemple, un et une menacée. Quand vous regardez cette toile, vous aurez du mal à dire qui est un, qui est une. En tout cas, la critique se divise là-dessus, donc c'est bien la preuve que c'est pas si évident que ça. On ne sait pas non plus si la menace vient de un à l'égard de une à l'égard de un, ou est extérieure. En d'autres termes, ce qu'annonce le titre du tableau, c'est effectivement un rapport genré entre un et une menace qui pèse sur le couple, qui pèse de que l'un fait peser sur l'autre ou l'autre sur l'un, on ne sait pas. C'est pas une représentation stéréotypée du genre féminin en bougie de voiture.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Alors, travailler à l'ombre, travailler dans l'ombre d'un artiste, c'est arrivé pour beaucoup de femmes. On peut citer par exemple Camille Claudel et Auguste Rodin, mais aussi Colette et Willy. Colette était dans les premières années de sa vie complètement exploitée, financièrement parlant, par Willy, Dora Maar, Picasso, Zelda, Francis Scott Fitzgerald. C'est quoi cette nuance de travailler à l'ombre ou travailler dans l'ombre pour vous, Anne Tomich?
Quand vous êtes à l'ombre d'un grand arbre, vous êtes tranquillement assis à l'ombre, enfin sous l'ombrage de cet arbre qui vous apporte donc un bien-être protecteur parce qu'il doit y avoir du soleil, donc vous êtes à l'ombre. Donc être à l'ombre de d'un arbre ou d'un homme,
c'est pas forcément
pas
mauvais.
Pas forcément négatif, c'est pas forcément mauvais, au contraire. Être dans l'ombre de, ça veut dire que la lumière dans laquelle vous devriez ou vous pourriez être vous est retirée et vous êtes placé dans l'ombre de ce grand homme.
Alors dans le cas de Suzanne Duchamp, était-elle à l'ombre ou dans l'ombre de son frère?
Ah bah, l'histoire littéraire l'a placée dans l'ombre puisque personne ou presque ne...
Aujourd'hui, même aujourd'hui, mais à l'époque.
Même à l'époque, elle était quand même... On vient de voir que... elle a été reconnue, qu'elle a exposé, qu'elle avait une existence.
À New York aussi, elle a exposé.
Elle a exposé absolument jusqu'à New York.
Elle a fait partie des officiels de Dada.
Elle a fait partie des 391 présidents de Dada. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, justement, la liste des 391 présidents de Dada, c'était une liste dérisoire pour subvertir l'idée même de présidence du mouvement. Il n'en demeure pas moins qu'elle faisait partie donc. Elle faisait partie de ces 391 personnes actives dans Dada. Elle a signé des manifestes Dada. Elle a donc exposé régulièrement au Salon des Indépendants, au Salon d'Automne, à New York.
Donc c'est pas tant Duchamp en tant que tel, mis à part l'espèce de misogynie internalisé de son temps qui l'invisibilise, que ensuite un certain nombre de critiques qui vont faire l'histoire de Dada et qui vont peut-être là de manière un peu plus consciente la mettre sur le côté. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses?
Oui, c'est enfin oui et non. Il est sûr que la critique postérieure à Dada, et à partir, disons, des années 50, a contribué à effacer complètement Suzanne Duchamp de l'historiographie des avant-gardes. Mais ils n'ont fait là que perpétuer, reconduire et renforcer un geste qui est initiée par les avant-gardes elles-mêmes, enfin en tout cas qui est initiée à l'époque même des avant-gardes, les dadaïstes, en ça ils sont pas différents des futuristes, des surréalistes, ont été les premiers à penser l'importance de l'historiographie et à vouloir
maîtriser leur histoire.
Absolument, à vouloir maîtriser leur histoire et donc à l'écrire. Donc, Tsara écrit ses chroniques zurichoises, Ribemont de Seigne écrit l'histoire de Dada à Paris, Hugo Ball, enfin bon, chacun y va, chaque homme y va de son histoire de Dada. Dans toutes ces histoires écrites par des hommes, les femmes sont complètement invisibilisées. Au point d'ailleurs que, en 1924, l'une des actrices, une autre actrice importante du mouvement Dada parisien, Céline Arnaud, écrira à Tsara en lui disant qu'elle regrette vivement que dans ses chroniques zurichoises, alors même qu'il se montre généreux à l'égard de ses adversaires actuels, il ne fait aucune place à son action à elle, Céline Arnaud, tant dit-elle dans l'action que dans le lyrisme. Ça veut dire que ni en tant que poète, ni en tant que membre actif de Dada, il ne lui fait de place. Donc, c'est bien quand même déjà, au moment des premières historiographies construites, enfin écrites par les dadaïstes même, que se met en place ce moment d'invisibilisation.
Alors, dans le cas de Suzanne Duchamp, il y a un épisode en particulier qui va la marginaliser, c'est l'épisode du porte-bouteille.
J'ai acheté ce jour-là un porte-bouteille au bazar de l'hôtel de ville et je l'ai apporté chez moi. Et ça a été le premier remède. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de lui donner dans ce choix une sorte de drapeau ou une couleur qui n'était pas sortie d'un tube. Cette couleur, je l'ai obtenue en inscrivant sur le remède en question une phrase qui aussi, elle aussi, devait être d'essence poétique. Et souvent sans sens normal, arrivant à jouer avec des mots, des choses comme ça. Je ne me rappelle même plus, maintenant je ne me rappelle plus parce que ce ready-made a été perdu. Je ne me rappelle plus la phrase que j'avais écrite dessus et je ne l'ai inscrite nulle part. Donc c'est fini, c'est perdu. Mais la réplique existe, on peut acheter encore un porte-bouteille du même type au bazar de l'hôtel de ville aujourd'hui. Je l'ai fait d'ailleurs, pas dernièrement, et j'ai une réplique de ce ready-made. Mais qui me donne la même satisfaction. Parce que ça n'est pas du tout l'idée, justement, de l'œuvre d'art. Comprenez-vous, c'est l'idée que ça a été choisi et que, pour ainsi dire, c'est sacré parce que choisi.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce porte-bouteille, Anne-Tomich ?
Donc là, Marcel Duchamp évoque cet objet qu'il achète au bazar de l'Hôtel de Ville en 1914, le porte-bouteille, donc il rapporte chez lui. En 1915, après le début de la Première Guerre mondiale, il part à New York et il demande à sa sœur, alors qu'il a quitté donc Paris, il demande à sa sœur de vider son appartement. Donc Suzanne s'exécute, elle vide l'appartement, puis elle jette toute une série d'objets et elle jette en particulier ce porte-bouteille.
Qui est 1915. Une œuvre d'art, qui est potentiellement le premier ready-made
dont Marcel Duchamp, dont on entend la voix, dont on vient d'entendre la voix, a fait, rétrospectivement, donc, le premier ready-made. Et donc, à partir de là, se reconduit l'image d'une Suzanne Duchamp.
Un peu bébête, finalement.
Bah oui, elle n'a rien compris. Elle n'a pas compris qu'elle était en face de le premier ready-made de l'histoire. Donc, la charmante idiote, quoi.
Oui. Mais
on peut relire cette histoire un tout petit peu différemment. D'abord, il faut préciser que quand Suzanne Duchamp vide l'appartement de Marcel, il lui a simplement demandé de vider l'appartement. Okay, elle n'a pas encore reçu une lettre qui contribuera, hein, à cette image de charmante idiote. Mais la lettre, elle l'a reçue après avoir jeté le porte-bouteille, une lettre donc de Marcel Duchamp, qui date de janvier 1916, je crois, dans laquelle Marcel Duchamp lui donne une série de consignes précisément à propos de cet objet. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit d'abord, prends pour toi ce porte-bouteille. Donc, il attribue à Suzanne la propriété de l'objet. Il lui dit ensuite, deuxièmement, j'en fais à distance un ready-made. Donc, à distance, lui, Marcel Duchamp, confère à cet objet, devenu propriété de Suzanne, il lui confère le statut d'œuvre d'art. Troisième consigne, troisième élément. En lui conférant l'œuvre d'art, il désacralise l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est plus l'objet, enfin le produit du génie créateur, c'est l'objet acheté au bazar de l'hôtel de ville. Troisième consigne donnée à Suzanne, c'est d'inscrire sur le cercle le plus bas à l'intérieur du cercle le plus bas du porte-bouteille, l'inscription suivante, d'après, entre crochets, Marcel Duchamp. Mmh. Donc, d'apposer une signature qui signe donc l'œuvre d'art. Mmh. Alors, de fait...
Mais ça, c'est après qu'elle ait déjà jeté...
Ah oui, bien sûr, elle l'a jeté. Donc, tout ça n'aura pas lieu. Hein. Tout ça, ça ne pourra pas avoir lieu, puisque le porte-bouteille, il est déjà jeté. Mais ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est... plusieurs choses. C'est la façon dont il est révélateur de la façon dont Marcel Duchamp pense la collaboration artistique. Première chose, il a mis en place un dispositif ludique dans lequel il fait participer sa sœur. Si on avait besoin d'un signe supplémentaire de la reconnaissance qu'il a, de la façon dont il reconnaît les capacités intellectuelles de sa sœur,
oui, c'est une phrase.
C'en est une. Deuxièmement, c'est une mise en question de la notion même d'auteur, puisque il est l'auteur à distance d'une œuvre qui est en fait une collaboration. Mais donc dans cette collaboration, ce qui est quand même très intéressant, c'est que cette collaboration qui fait de Marcel Duchamp à la fois celui qui signe, puisque c'est son nom, Marcel Duchamp, et que le d'après est entre crochets. Donc Marcel Duchamp est à la fois le signataire de l'œuvre, en même temps qu'il ne l'est pas, puisque c'est d'après, et à comprendre dans le contexte d'après les instructions oui. de Marcel Duchamp. Donc il n'est pas vraiment le... Donc il est, il n'est pas, mais la collaboratrice là-dedans, la collaboratrice du jeu, elle est totalement effacée. Elle n'est nulle part. Donc on est dans le cadre d'une œuvre collaborative qui montre l'importance des collaborations pour Marcel, tout en effaçant la part de la femme, Suzanne, dans le
processus. Alors là, on en arrive vraiment au cœur de ce que vous expliquez dans votre article, Anne Tomich, c'est justement cette notion de collaboration entre le frère et la sœur, et qui est une notion plus large de l'idée de la collaboration dans le cadre de Dada, puisque comme vous l'expliquez très bien, voilà, l'auteur doit être désacralisé, donc on peut travailler à plusieurs sur une œuvre d'art. En quoi est-ce que finalement, ça c'est très important dans l'invisibilisation et en même temps l'aspect très ambigu justement de cette invisibilisation, parce que il travaille en collaboration avec sa sœur sans vraiment lui laisser la meilleure part, alors que peut-être, et on va le voir avec un autre exemple qui est le ready-made malheureux de Marcel, c'est peut-être elle qui finalement ajoute le plus dans la collaboration entre les deux.
Oui, ben le ready-made malheureux de Marcel, c'est une œuvre signée de Suzanne Duchamp en 1920 et dans un autre contexte, qui est le contexte de son mariage avec Jean Croty.
Donc c'est un cadeau de mariage Duchamp fait au couple Croty.
Donc ça commence effectivement en 1919 avec le cadeau que Marcel envoie à Suzanne et Jean à l'occasion de leur mariage. Ce cadeau, c'est un livre de géométrie, que Marcel Duchamp demande à Suzanne d'accrocher sur le balcon de leur appartement.
Donc c'est une installation un petit peu.
C'est une installation, et c'est une installation qui est à la fois un ready-made, puisqu'il a acheté le livre de géométrie, et qui est un ready-made alors, particulier, puisqu'il est éphémère.
Et, parce qu'avec la pluie, il va se désagréger.
Exactement. Duchamp explique qu'en fait, c'est le vent qui va choisir, en faisant tourner les pages, les points qui vont devenir, entre guillemets, œuvres, c'est-à-dire qui vont être rendus visibles, tout en étant, en même temps, abîmés, déchiquetés, détériorés par les intempéries, etc., etc. Donc, ça, c'est le cadeau que Marcel fait au couple. Il leur fait le cadeau d'une œuvre d'art qui est un ready-made éphémère. Une fois l'installation faite, Suzanne Duchamp ne s'arrête pas là. Elle prend cette installation en photo.
Donc elle fait de l'art sur l'œuvre d'art de son frère.
Exactement.
Et puis elle va même ensuite en faire un tableau, puisqu'elle va le peindre.
Attendez, mais laissez-moi.
Pardonnez-moi. C'est qu'on arrive à la fin de l'émission.
Déjà. Bon, alors je me dépêche. Donc elle photographie le livre de géométrie. Elle envoie la photo à son frère. Et son frère Marcel lui répond en lui disant « Ah, formidable, j'aime beaucoup ce ready-made qui s'ennuie sur le balcon. » Elle reçoit la lettre et à ce moment-là, elle peint une troisième étape de l'œuvre, la photo dont qu'elle inverse, elle met l'objet tête en bas et elle l'intitule, en référence au commentaire de Marcel Duchamp, ce ready-made qui s'ennuie, elle l'intitule « Le ready-made malheureux » de Marcel. Et elle le signe de son nom, 1920. Inscrivant du coup, ou n'effaçant pas, dans le travail de collaboration, le nom de son frère, puisqu'il est inscrit dans le titre.
Donc elle fait un vrai travail de collaboration artistique.
Elle fait un travail de collaboration artistique dans lequel elle n'efface pas la part de Marcel.
Alors, dans l'ordre de la collaboration artistique, il faut dire un mot quand même sur le portrait photographique intitulé « Rose, c'est la vie » par Man Ray, parce que ça, c'est une collaboration entre Man Ray et Marcel Duchamp, qui est une collaboration entre hommes, où il s'agit de prendre en photo un homme qui se déguise en femme. Donc tout ça, c'est très ambigu.
Alors, tout ça, c'est très ambigu et c'est d'autant plus ambigu que vous dites que c'est une œuvre entre hommes. C'est une œuvre entre hommes, mais c'est une œuvre qui laisse dans l'ombre, ou qui met dans l'ombre, une femme. Parce que c'est une œuvre, alors il s'agit donc du portrait de Marcel Duchamp, travesti en femme, incarnant la persona de Rose, c'est la vie, à qui il a donné toute une existence fictive. Donc, portrait photographié par Man Ray de cette Rose, en exhibant une hyper-féminité. Et pour exhiber cette hyper-féminité, le personnage de Rose, c'est la vie, porte le chapeau qui appartient à une femme réelle, Germaine Eberling, qui était la maîtresse de Picabia. Et pour donner plus de vraisemblance à cette figure féminine photographiée par Man Ray, Germaine Eberling est précisément placée littéralement dans l'ombre de Marcel Duchamp, c'est-à-dire derrière lui, et les bras et les mains longues, effinées, très féminines, que on voit sur la photo, sont celles de Germaine Eberling. Mmh.
Donc il y a juste les mains de cette femme, et c'est vrai qu'elle n'apparaît nulle part dans les crédits, en fait.
Elle apparaît nulle part dans les crédits, alors que les crédits sont très fortement marqués. C'est-à-dire, si les crédits étaient effacés, on pourrait dire, bon. Mais les crédits sont très fortement marqués. Il y a une dédicace en haut à gauche, qui est de Man Ray à son ami Sam White. Il y a une dédicace en bas à droite, qui est une signature, en fait, de Marcel Duchamp, qui signe tendrement Rose, c'est la vie, alias Duchamp. Donc, il y a une diagonale masculine qui traverse tout le tableau, qui va de Man Ray à Duchamp, en inscrivant nulle part l'actrice Germaine Eberling.
En 10 secondes, aujourd'hui, l'historiographie remet à l'honneur les femmes de manière générale.
Depuis les années 80. Depuis les années 80, il y a tout un grand mouvement de réhabilitation, de redécouverte des artistes, femmes. Et ce travail et cet ouvrage dont vous avez parlé, dont vous parlez toute la semaine, en fait partie.
Merci beaucoup, Anne Tomich. Cet ouvrage donc, dont on parle toute la semaine, c'est « Femmes artistes et écrivaines dans l'ombre des grands hommes » et c'est aux éditions Classique Garnier. Tout de suite, la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec aujourd'hui Fabien Simode, rédacteur en chef de la revue L'Œil. Bonjour à vous Fabien.
Bonjour Mathieu.
Le triomphe de la végétation est total. Cette citation aurait pu être de Maurice Genevoix, mais elle est d'un autre prix Goncourt.
Elle est de Michel Houellebecq. C'est par ces mots en effet que l'écrivain referme la carte et le territoire dont je vous rappelle ces dernières lignes. Ce sentiment de désolation aussi qui s'empare de nous à mesure que les représentations des êtres humains qui avaient accompagné Jed Martin se délitent sous l'effet des intempéries, puis se décomposent et partent en lambeaux. Elles s'enfoncent, semblent un instant se débattre avant d'être étouffées par les couches superposées de plantes. Puis, tout se calme, il n'y a plus que des herbes agitées par le vent, le triomphe de la végétation est total. Vous vous en souvenez, Mathieu, La carte et le territoire est le roman de Houellebecq qui nous emmène dans le milieu de l'art contemporain à travers la vie d'un artiste fictif, Jed Martin. Or, à la fin du roman, lorsque les personnages disparaissent, reste un espoir, celui de la régénération de la nature. Associer l'art contemporain à la végétation, quelle drôle d'idée. Pourtant, Houellebecq a vu juste. L'herbe, les fleurs et les arbres sont devenus ces dernières années un matériau très prisé des artistes. Au même titre qu'ils se servent d'un crayon ou de peinture, les plasticiens utilisent désormais le végétal dans leur création.
Alors évidemment, il ne s'agit plus de représenter la nature à la manière de Dürer peignant sa grande touffe d'herbe, mais de faire entrer la nature dans les arts plastiques.
C'est sur cette tendance qu'Anne-Cécile Sanchez enquête ce mois-ci dans le magazine d'art L'Œil. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une exposition, une installation, une œuvre ne s'empare du botanique comme matériau, comme sujet de réflexion, note Anne-Cécile Sanchez, qui remarque au passage que le livre du philosophe Emanuele Coccia, paru en 2016 sur la vie des plantes, est l'un des essais les plus cités aujourd'hui chez les artistes. Ce n'est pas Klaus Littmann qui nous contredira. Le curateur suisse vient en effet de réaliser une immense installation artistique en Autriche. Littmann a planté dans le stade de foot de Klagenfurt des arbres. Mathieu, Jacques, imaginez-vous vous asseoir dans un stade et regarder une forêt de 300 arbres plantés là sur le terrain de foot. Ce spectacle statique serait absurde s'il ne réalisait pas le dessin au crayon réalisé dans les années 70 par un autre artiste, Painter. Mais il serait encore plus absurde si ce dessin n'était pas visionnaire, s'il ne faisait pas écho à la triste actualité écologique et à la déforestation en cours, par exemple au Brésil. C'est justement un artiste brésilien, Luiz Zerbini, qui ouvre actuellement l'exposition « Nous les arbres » à la Fondation Cartier à Paris. L'installation de Zerbini se compose d'une série de peintures monumentales entourant une table herbier pensée comme un dessin en trois dimensions. Sur cette table est planté un magnifique Ficus microcarpa, autrement appelé Ficus banzai. S'il ne s'agit pas chez Zerbini de vanter les vertus de l'arbothérapie dont vous parlez Jacques Tassin dans votre livre « Penser comme un arbre », il est question en revanche de la cohabitation entre la modernité brésilienne et la forêt amazonienne, bref, de la cohabitation entre l'homme et la nature.
Et oui, parce que, outre son indéniable dimension esthétique, le végétal dans l'art s'accompagne presque toujours d'un message politique. En quelques mots, Fabien Simode.
Et oui, est-ce que Joseph Beuys entreprend de planter les 7000 chênes, par exemple, lors de la Documenta de Cassel? Il n'entreprend pas qu'un message écologique, c'est aussi un message de replanter la forêt, par exemple, teutonique. Alors, est-ce que Maurice Genevoix aurait aimé cette utilisation du végétal dans l'art, difficile de répondre. Mais il aurait sans doute remarqué que si la société en général, et les écrivains en particulier, se sont aujourd'hui éloignés de la nature, les artistes plasticiens, eux, tentent de rétablir le lien avec le vivant. Qu'au moins dans l'art, pour plagier Houellebecq, le triomphe de la végétation est total.
Merci beaucoup Fabien Simode. Tout cela et bien plus encore à retrouver dans le magazine L'Œil. La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Jean Frédérics. Et tout de suite, on retrouve les sciences.